Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Ravi de vous retrouver, Laurent Godet.
Bonjour, Sophie Kakem.
Écoutez nos défaites. Votre dernier roman, édité chez Actes Sud, brasse des siècles de guerre en guerre. La guerre toujours, la guerre depuis toujours. De l'Antiquité avec Hannibal, en passant par la guerre de sécession en Amérique, puis des guerres coloniales du XXe siècle en Afrique, aux guerres de la période contemporaine menées hors cadre étatique par des groupes intégristes. Toutes les guerres se ressemblent-elles pour autant? Une guerre d'empire entre Rome et Carthage, une guerre civile en Amérique, la guerre coloniale en Éthiopie, la guerre sans frontières qui se profile en ce 21e siècle, sont-elles de même nature pour vous?
Non, je crois pas. Je crois que c'est ça qui est aussi intéressant dans le geste de convoquer le passé, c'est qu'on se rend compte de tout ce qui est très différent aujourd'hui. La modernité a beaucoup transformé la guerre aujourd'hui. Vous parliez de l'aspect sans frontières, on pourrait parler de la notion de conflit permanent qui tend à s'imposer, on pourrait parler aussi de la distanciation vis-à-vis du champ de bataille avec les drones. Tout ça crée des bouleversements qui sont en fait extrêmement profonds et que je trouve intéressant d'interroger. Je suis pas un spécialiste de la guerre et des petits soldats de plomb, mais c'est vrai que le citoyen que je suis a envie d'interroger ces notions parce qu'elles dessinent quand même un nouveau rapport au monde, en fait.
Et pourtant, c'est vieux comme le monde, la guerre.
Ah, ça oui. Ça oui. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, pendant des siècles et des siècles, je pense que jusqu'à encore très récemment, jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas de guerre s'il n'y avait pas présence sur le même champ de bataille au même moment de deux ennemis, de deux armées. Il n'y avait pas de guerre s'il n'y avait pas de héros. Et ces choses-là tendent un peu à se dissoudre aujourd'hui. On a l'impression que c'est moins évident. On peut parler d'une guerre sans héros, on peut parler d'une guerre sans fin, on peut parler d'une guerre sans victoire aussi, de plus en plus.
Et pourtant, même dans ces guerres où il y avait une bonne cause à défendre, où il y avait l'histoire à faire avancer, vous revenez sur le caractère inhumain de cette entreprise qu'est la guerre, même chez des gens qui ont bien fait de se battre et de choisir la guerre.
Oui, vous avez raison, le propos n'est pas de dire « la guerre est horrible de tout temps et pour toujours », ce serait infiniment trop simple. Il y a des guerres justes, il y a eu des guerres justes, il y en aura encore demain. Il y a des guerres qui sont ancrées dans le besoin de liberté, d'émancipation. Ça, c'est pas rien quand même. Mais même celles-là, elles se font quand même en étripant les ennemis. Et c'est peut-être le point commun de toutes les guerres, c'est qu'à un moment donné, ce sont des corps qui se vident de leur vie et que ça, c'est laid. Alors c'est ce duo-là entre parfois une cause juste et en même temps une boucherie sous les yeux qui fait, je trouve, la complexité des choses et ce qui me donne moins envie de m'approprier ça en tant que romancier, parce que du coup il y a des espaces, il y a des nuances, il y a des choses intéressantes.
Alors vous avez écrit un roman, c'est vraiment de la fiction avec des personnages de fiction, ça c'est la trame, mais vous avez convoqué effectivement l'histoire trois chapitres très très différents de l'histoire, trois époques différentes. Pourquoi et comment s'est opéré ce choix, Laurent Godet?
De manière assez instinctive, moi j'ai eu très vite envie dans le livre du général Grant pendant la guerre de sécession, de Hannibal avec ses éléphants qui va défier l'Empire romain, et du Négus, le roi des rois, et les Sélassiers affrontant et perdant face à Mussolini. C'est par instinct que je suis allé vers ces personnages. Plus je lisais, parce que je n'étais pas un spécialiste de ces périodes-là et de ces personnages, et c'est vrai que plus je m'appropriais le matériau historique, plus je trouvais que c'était passionnant. Pour la raison qu'on a évoquée juste avant, c'est que chacun des trois personnages est difficile à juger de manière simple et lapidaire. Ils ont des zones d'ombre, ils ont des zones de lumière, ils se battent, ils sont au milieu de convulsions du monde qui sont passionnantes, mais qui sont profondément sanglantes. Et voilà, ça me permettait, je crois, d'avoir une caisse de résonance assez intéressante à la période contemporaine, qui elle aussi est assez...
Assez trouble.
Assez trouble, oui.
Dans votre roman et dans la vie de tous les jours. Alors parlons de vos trois exemples historiques, deux vainqueurs invaincus. Hannibal, pour vous, c'est un grand guerrier, c'est un héros, ou c'est quelqu'un qui a été tout à la fois capable de libérer son peuple et coupable d'un charnier incroyable?
C'est tout ça, c'est le personnage peut-être le plus, comment dire, j'allais presque dire le plus sympathique, c'est un mot qui n'est pas très intéressant vis-à-vis d'un personnage historique, mais le plus flamboyant, mais pas pour une raison simple, c'est qu'il a déjà un pied dans la mythologie, Hannibal. Pourquoi Hannibal est resté dans l'histoire avec un grand H, beaucoup plus que celui qui a gagné d'ailleurs, Scipion, qu'on connaît, mais qui n'a pas cette espèce de patte comme ça, mythologique. Alors que, au fond, la guerre que mène Hannibal est une des causes les moins justes de différents conflits que j'évoque. C'est une guerre de rivalité entre deux empires. Au fond, c'est pas passionnant de savoir si Hannibal va gagner ou si c'est Rome. C'est pas passionnant, ça l'est, mais c'est juste de la rivalité de pouvoir. La guerre que mène Grant pendant la guerre de sécession, pour moi, est plus juste. C'est-à-dire que là, il y a une cause. Il y a la fin de l'esclavage, il y a l'union. C'est des causes plus intéressantes, d'une certaine manière.
Mais l'un et l'autre vont employer des méthodes assez de guerriers sans état d'âme, c'est ça?
Non, il y a une guerre, il faut la gagner, et ils y vont. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, Hannibal, en fait, encore aujourd'hui, a mené une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité, la bataille qui se passe à ce qui aujourd'hui s'appelle Cannae della Battaglia, qui est un lieu dit dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, où il ravage l'Empire romain, alors qu'il était en sous-nombre. C'est une bataille qui est encore étudiée dans les livres des écoles académiques militaires. Une bataille géniale, d'un point de vue de la vista de stratège qu'il a eu, mais qui est une boucherie. Il y a 45 000 morts ce jour-là, en quelques heures. C'est inouï. Enfin, je veux dire, il faut rappeler, peut-être, c'est pas pour comparer du tout les batailles, mais juste pour l'ordre de grandeur, que Omaha Beach, c'est 3 000 morts. On est dans des échelles qui sont absolument pharaoniques.
Et pour la guerre de sécession, ce général, futur président des États-Unis, Grant, vous rappelez qu'on l'appelait le boucher ou l'ivrogne, et qu'il envoyait là aussi, sans état d'âme, ses hommes, sachant très bien qu'ils ne reviendront pas.
D'une part, il avait ce penchant à jouer toujours la carte du nombre face à son ennemi, et donc à inonder les champs de bataille des soldats, quitte à savoir que la plupart d'entre eux allaient à la boucherie, donc d'où son surnom le boucher. Et d'autre part, il a été quand même un des premiers, avec son ami Sherman, qui a donné son nom au char américain. Sherman et Grant ont quand même un peu été les premiers à théoriser l'idée de guerre totale. Alors, Ça a existé avant eux, hein. On a toujours brûlé les villages et tué les civils pour effrayer l'ennemi. Mais le mot, l'expression « guerre totale » apparaît dans un courrier entre Sherman et Grant, et résolument, ils choisissent à un moment donné de mettre le feu comme ça. Comme dit Sherman, je ferai gémir la Géorgie, et il fait gémir la Géorgie, c'est-à-dire qu'il la saigne, civils et militaires confondus. Ça aussi, c'est pas inintéressant de se rendre compte que, même face à une cause juste, la tentation de basculer dans ce que les Grecs appelaient finalement l'hubris, c'est-à-dire la démesure, la folie, elle est jamais très loin, quoi.
Mais quand vous revisitez cette page de l'histoire américaine, on a l'impression qu'à certains moments, ce n'était plus pour des raisons politiques que cette guerre continuait, qu'il y avait autre chose, et que vous questionnez cette autre chose.
Alors, je pense qu'effectivement, d'une manière générale, hein, pas forcément sur la guerre de sécession, je suis pas assez expert pour savoir, mais d'une manière générale, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'enclenche à partir du moment où on est dans un conflit armé, au bout d'un certain temps, tout simplement parce que le premier jour, on peut se battre pour une cause qu'on peut même estimer juste, pourquoi pas, et il y en a. Le deuxième jour, on retourne au champ de bataille, un peu pour la cause, mais aussi un peu parce qu'on a perdu des hommes hier et qu'on veut les venger. Et plus le temps passe, et plus je pense que le mécanisme de la vengeance se superpose à celui du conflit initial. À la fin, pourquoi est-ce qu'on se bat? Est-ce que c'est pas juste pour ne pas céder face à celui qu'on a en face, oubliant peut-être un peu les raisons originales? Ça, je crois que c'est l'histoire de beaucoup de guerres, oui.
Et puis, vous avez choisi un autre exemple. Cette fois-ci, on peut parler de vaincu ou d'une guerre qui n'a pas été gagnée, celle de la décolonisation de l'Éthiopie, celle d'Élysée l'Acier face à Mussolini.
Qui est une guerre monstrueuse, hein. Il faut le rappeler aussi, c'est l'Italie de cette époque-là est la première puissance coloniale à utiliser sciemment les gaz moutardes sur des populations civiles aussi, hein. C'est une guerre totalement déséquilibrée, l'armement n'est pas du tout le même, c'est une guerre qui est perdu d'avance et laissé lasser le sait, il a pas les armes pour se battre. Donc il va face à son ennemi en sachant qu'il envoie ses hommes à la mort, et les Italiens y vont avec une sauvagerie, une brutalité totale. Justement, et on en revient à l'idée de la vengeance, parce qu'en fait Mussolini, pourquoi est-ce qu'il veut à ce moment-là châtier l'Éthiopie? Parce que c'est bien de ça dont il est question. C'est bien sûr pour avoir une colonie, mais aussi pour venger l'affront qui a été fait quelques années plus tôt à Doha, où pour la première fois depuis l'histoire, une nation africaine avait battu les colons. C'était la grande époque de la défaite d'Adoua, qui a été vécue par les Italiens comme une gifle monumentale. Et donc Mussolini, il retourne en Éthiopie en bombant le torse un peu et en disant « ce coup-ci, on va pas se laisser faire ». On est vraiment dans le cycle aussi de la vengeance, et c'est ça qui est absolument navrant. Plus le fait que là, c'est vraiment tout le rapport à la colonisation, et donc je le disais, à une guerre profondément juste du point de vue des laissés-lassés. Il veut simplement libérer son peuple. Il est étranglé et par Mussolini et par la lâcheté des pays européens qui ont décidé que surtout personne n'irait mourir pour l'Éthiopie. Donc en fait, il a perdu d'avance.
Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces trois repères historiques, il y a une histoire contemporaine dans votre roman. Mais Laurent Godet, s'il fallait partir maintenant du titre « Écoutez nos défaites », pourquoi ? Qu'est-ce que vous appelez par défaite ?
Ce que j'essaie de nommer et d'explorer dans ce livre, c'est pas l'échec. Et c'était ça que je voulais essayer de marquer. C'est que la défaite n'est pas l'échec. Et là, je fais dire à un moment donné au personnage féminin principal, Mariam, cette chose-là, c'est que dans la vie, elle a pas raté quoi que ce soit. Elle a pas démérité. Elle s'est battue. Elle a essayé de mener sa vie comme elle l'aimait, comme elle la voulait, comme chacun d'entre nous essaie de faire chaque matin qu'on se lève. Et pour autant, elle sent qu'il faut qu'elle embrasse le temps de la défaite. Le temps de la défaite, alors s'il faut le définir, je dirais c'est le temps de la pente douce vers peut-être plus de vacillement, plus de défaillance, plus de perte. C'est le temps de la perte. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être performant ou pas, c'est simplement le temps qui passe. On a tous à voir avec ce temps-là. On sait qu'on va perdre des gens. Plus on avance dans la vie, plus on va devoir se faire à l'idée de perdre des gens qu'on aime. Plus on va devoir se faire à l'idée que peut-être le corps va commencer à donner une autre musique, celle de la fatigue, celle de l'épuisement. Voilà, c'est ça la défaite.
Mariam, puisque vous parlez d'elle, c'est bien sûr l'archéologue irakienne et qui fait partie des personnages contemporains de votre roman. Et une scène d'aujourd'hui, extrait de votre roman, Laurent Godet. Écoutez nos défaites.
Ils feront à Palmyre ce qu'ils ont fait à Nimroud. Les mouvements de troupes confirment que Daesh poursuit sa progression vers l'oasis de Tadmor et la cité antique. Il faut lutter, tenter tout ce qui est possible. Depuis le matin, elle essaye de joindre Khaled al-Assad au téléphone, mais n'y parvient pas. Elle tourne en rond dans son bureau, peste contre le vieux monsieur de 83 ans qui est injoignable. Elle l'a connu lors d'un stage en Syrie. Monsieur Palmyre, comme tout le monde l'appelle. Elle se souvient de lui. Son beau visage noble, avec ses cheveux blancs et ses grosses lunettes qui lui donnent un air d'écrivain égyptien. Elle se souvient des discours qu'il fait parfois en araméen, à la fin d'un dîner, laissant tout le monde ébahi. Il aime cela. Pas pour impressionner les jeunes étudiants, mais pour que les sons de cette vieille langue résonnent encore. C'est sa façon de faire parler l'antique en l'homme. Elle réessaie de téléphoner. Quelqu'un finit par répondre. Allô ? C'est une voix jeune. Elle se présente, dit qu'elle appelle depuis l'UNESCO à Paris. C'est à son fils Walid qu'elle parle. Il lui explique que son père est sur le site, qu'il lui dira de le rappeler dès qu'il rentrera. Elle en profite pour demander quelle est la situation. Walid est tendu. Il répond par des phrases courtes. Nous sommes très préoccupés. Mon père travaille beaucoup pour essayer de prendre toutes les précautions. Elle lui exprime quelques mots d'encouragement, remercie et raccroche. Des hommes travaillent, s'agitent, réfléchissent à comment protéger des ruines tandis que le pays brûle. des hommes se battent au milieu d'un monde qui se convulse pour que Palmyre soit transmise aux générations futures. Et le vieux Khaled arpente encore ce site qu'il connaît par cœur en parlant en araméen aux vieilles pierres.
Protégé des ruines alors que le monde s'écroule, Laurent Godet, ce passage nous rappelle que il y a bien sûr la mémoire de toutes les civilisations, mais la mémoire de toutes les violences.
Oui, et puis aussi que ceux qui tuent des civils aux terrasses de café sont les mêmes que ceux qui détruisent des statues ou font sauter à la dynamite des sites qui appartenaient au patrimoine de l'humanité. C'est le même geste, c'est la même haine. Et c'est toujours très lié, hein. On l'a vu dans la séquence de l'année dernière. On a eu à la fois les attentats de Paris, de Bruxelles et de plein d'autres endroits, mais aussi la destruction du musée de Mossoul, des sites de Hatra, de Nimroud, enfin tout ce dont il est question dans le livre. Ces choses-là sont menées de front, et donc peut-être c'est aussi une invitation pour nous, en réaction, à dire que on doit les brandir aussi de front. La liberté d'aller boire un verre à une terrasse de café, c'est la même chose que l'attention et la préservation qu'on doit avoir sur ces choses qui nous sont transmises depuis infiniment longtemps et qu'on doit juste passer aux générations futures. Elles ne nous appartiennent pas, elles sont là depuis bien longtemps. Et c'est une profonde mélancolie de voir que certaines d'entre elles ont été, à cause de la folie des hommes et de leur barbarie, ont été à jamais détruites.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs. You that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.
Laurent Godet, pourquoi avez-vous choisi cette chanson de Bob Dylan, Masters of War?
Oh, parce qu'il y a un petit lien d'abord avec la guerre, c'est une chanson sur ce thème-là, mais c'est pas la raison principale. La principale, c'est que je trouve qu'il y a dans la voix de Bob Dylan, parce qu'il est un des fondateurs, une des figures centrales de la protest song, il y a quelque chose qui nous rappelle qu'il y a pas si longtemps, on était encore dans l'utopie, dans une espèce d'humanisme comme ça, combatif, joyeux aussi. Bob Dylan, c'est les années 70 et même avant. Ça s'est beaucoup éloigné avec l'époque dans laquelle on vit, ce qu'on traverse en ce moment. Et je trouve que c'est bien de s'en souvenir. On a besoin d'utopie, on a besoin de protest songs, je les appelle de mes voeux, parce qu'il y a un monde qu'il va falloir réinventer. Celui qu'on a sous les yeux ne donne pas une folle envie de se lever le matin.
Et pourtant, depuis que le monde est monde, les hommes, les femmes aussi, vivent avec la guerre, avec la nécessité de la guerre. C'est même la guerre qui trace l'histoire et la géographie dans ce monde.
Bien sûr, mais la guerre n'est que la caisse de résonance de ce que l'homme a en lui. C'est-à-dire que oui, la haine fait partie de l'homme, de chacun d'entre nous. La rivalité, l'ambition, ces choses-là existent en nous. Donc la guerre n'est qu'une sorte d'extension, une explosion de ces sentiments intérieurs. Et vous avez raison, ça a toujours existé, ça existera toujours, ne nous leurrons pas. Simplement, il faut à chaque fois monter au créneau, parce que c'est notre
monde.
Pour
dire quoi alors ?
Ben, pour essayer d'abord de l'endiguer, de la combattre, c'est pas parce que ça existe qu'il faut que ça prenne toute la place. Et puis pour redéfinir peut-être à chaque génération qui vit, pour redéfinir l'homme que nous voulons être. Quand je dis l'homme, c'est en général. Ces périodes-là imposent à chacun de se redéfinir. Donc voilà, c'est à nous de le faire.
Écoutez nos défaites. C'est édité chez Actes Sud. Merci d'être passé ce matin, Laurent Godet.
Merci à vous et bonne journée.